journal de la rédaction vous est présenté par Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour à tous. 11 personnes arrêtées au lendemain de l'attaque meurtrière près de Moscou, dont 4 assaillants présumés, annoncent les autorités russes. Malgré la revendication du groupe État islamique, les services de sécurité assurent que les auteurs ont eu des contacts avec l'Ukraine. Kiev dément. Nous serons à Moscou et à Kiev dès le début de ce journal. Et puis nous analyserons également les raisons qui ont pu pousser l'organisation djihadiste à frapper la Russie. Dans ce journal également, la 30e édition du SIDAction, les guerres et les reculs des droits humains ont un impact sur la lutte contre le VIH dans le monde. Nous évoquerons les enjeux avec Marion Abaléa, maîtresse de conférence à l'université de Strasbourg. Et puis, c'était l'un des pères de Babar, Laurent de Brunhoff, est décédé hier à l'âge de 98 ans. Il est celui qui a développé le personnage pour enfants à travers le monde. Les secours continuent de déblayer les décombres à la recherche des victimes de l'attaque hier dans une salle de concert de la banlieue de Moscou, attaque revendiquée dans la soirée par le groupe État islamique dont le bilan s'est déjà alourdi ce midi, passant à présent à 115 morts. Les forces de sécurité sont également mobilisées, 11 personnes ont été arrêtées, annonce le Kremlin ce matin, dont les 4 assaillants présumés. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Adrien.
Correspondant de France Culture à Moscou. Alors avant de faire le point sur l'enquête, vous êtes sorti dans les rues de la capitale ce matin et vous y avez rencontré des Russes choqués.
Oui, clairement, c'est même tout Moscou hein, qui s'est réveillé en état de choc ce matin, dans la grisaille, sous une pluie glaciale. La capitale russe semble groggy après la nuit d'enfer qu'elle a passée. Certains moscovites, comme Dimitri, avaient même encore du mal à imaginer qu'un tel scénario ait pu se produire.
Конечно, шок.
Bien sûr, c'est un choc. Compte tenu du nombre de forces de sécurité à Moscou, je ne m'y attendais pas. C'est lié à l'extrémisme islamique, j'en suis plus que sûr. Et je ne parle pas de la politique migratoire. Je veux dire que tout le monde entre dans le pays. Et en plus, c'est une erreur de calcul des forces de sécurité.
Les autorités n'ont pourtant pas tardé à pointer du doigt vers l'Ukraine. Hein. Les membres présumés du commando ont été arrêtés dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine et de la Biélorussie. Les forces de sécurité affirment que les terroristes avaient des contacts côté ukrainien. Et même s'ils n'en apportent pas la preuve, Maxime, lui, est convaincu par cette explication.
Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons politiques, je suppose. Avez-vous remarqué vers où les terroristes fuyaient? Où les a-t-on rattrapés? À la frontière avec l'Ukraine. Voilà.
Moscou tourne au ralenti hein, ce samedi. Tous les spectacles ont été annulés ce soir dans la capitale et au nord-ouest, hein, vous l'avez dit, sur le site du Krokus City Hall. Les recherches se poursuivent pour tenter de dégager les corps des décombres et elles pourraient durer plusieurs jours.
Alors justement, on évoquait le bilan humain, les arrestations. On est-on ce midi de l'enquête et des opérations de secours qui vont durer donc plusieurs jours?
Oui, en ce qui concerne les opérations de secours, effectivement, il faut s'attendre à ce que le bilan augmente encore hein, dans les heures et les jours qui viennent. On en est à 115 morts, mais ça n'est qu'un bilan minimal au regard des informations qui nous parviennent. Et puis du côté de l'enquête, les fuites qui sont actuellement orchestrées par les services de sécurité donnent une idée finalement de ce que sera la version retenue par le pouvoir russe. Les suspects arrêtés sont de nationalité tadjik. Il y a déjà des vidéos qui circulent où l'on voit deux d'entre eux interrogés à même le sol, affirmer qu'ils ont fait cela pour de l'argent, 500 000 roubles, ça fait 5 000 euros, témoignage à prendre avec beaucoup de précautions parce qu'ils sont manifestement recueillis sous la contrainte. Moscou ne commande pas d'ailleurs la revendication de l'État islamique, mais pointe du doigt, hein, je l'ai dit, vers l'Ukraine et affirme que donc les terroristes avaient des contacts côté ukrainien sans en apporter la preuve toutefois, mais le coupable est en train de se dessiner. Apparemment, on verra ce qu'en dira Vladimir Poutine quand le chef du Kremlin sortira de son silence.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Alors vous le disiez à l'instant, ce matin, les services de sécurité russes accusent l'Ukraine d'être impliquée, mais le démenti des autorités ukrainiennes n'a pas tardé. C'est une accusation à laquelle Kiev s'attendait, Camille Manière.
Alors pour tout vous dire, hein, on n'est pas vraiment surpris. Les Ukrainiens ici se doutaient bien que cet attentat allait d'une manière ou d'une autre leur être reproché dans le contexte de la guerre, malgré la revendication du groupe État islamique. Ces accusations ce matin du FSB viennent donc renforcer hein, la plupart des Ukrainiens dans l'idée que ce qui s'est passé hier soir dans le théâtre près de Moscou serait peut-être une manipulation des services russes pour renforcer l'autorité du pouvoir poutinien, ressouder la population russe autour de l'ennemi désigné, l'Ukraine. Les Ukrainiens connaissent bien l'histoire récente de leurs voisins russes, notamment ces attentats de 1999 et 2002 qui avaient entraîné des tours de vis sécuritaires, consolidé la victoire, la verticale du pouvoir cher à Vladimir Poutine. Ils ont, ces Ukrainiens, l'impression que l'histoire se répète, mais cette fois, bel et bien à leur dépens, avec tout ce que ça risque d'entraîner en termes d'intensification de la guerre ici et de crainte de représailles sur le peuple ukrainien.
Camille Magnard, depuis Kiev. Alors, on a l'habitude de voir l'organisation État islamique frapper en Europe et sur le continent africain. Toutefois, l'attaque de Moscou par l'EI n'est pas surprenante dans la mesure où son contentieux avec la Russie et le Kremlin est particulièrement lourd et ancien. C'est ce qu'explique à nos confrères de France Inter le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes à France 24.
Aujourd'hui, ils sont au Sahel, face aux Russes de Wagner. Ils sont en Syrie, face aux Russes. Ils sont au Caucase, ils avaient une villa qui a été écrasée par les Russes. Ils sont en Afghanistan. Et ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de frapper la Russie. Les services de sécurité russes, quand même, ont déjoué une attaque contre une synagogue début mars. Il y a eu deux attentats revendiqués en 2016, deux en 2017, deux en 2018. Voilà, il y a eu même un Russe qui a été arrêté en Pologne en février, car il était dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Donc ça aussi, c'est un angle un peu mort, mais l'État islamique a beaucoup recruté chez les Russes. Mmh. Que ça soit dans le Caucase, ancienne République soviétique, ou même en Russie même. Les plus importants commandants militaires, on va dire, de l'État islamique, parmi eux, il y avait beaucoup de personnes qui avaient la nationalité russe ou une autre nationalité des pays au Caucase.
Wassim Nasr, au micro de France Inter. L'attaque a en tout cas suscité des réactions du monde entier, malgré les tensions géopolitiques, avec la Russie liée à l'invasion de l'Ukraine. Emmanuel Macron condamne fermement l'attaque et exprime sa solidarité avec les victimes, leurs proches et tout le peuple russe. Condamnation du même ordre venant de l'ONU, de l'Union européenne, Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni également. Quant à l'Inde et la Chine, elles condamnent et se disent solidaires de Vladimir Poutine. De nouvelles attaques ce matin dans les régions russes frontalières de l'Ukraine. Selon les autorités dans la région russe de Belgorod, une attaque de drones et des frappes auraient fait 2 morts civiles et 7 blessés. L'Ukraine a, elle, été visée par 34 drones explosifs, 31 ont pu être abattus, annonce Kiev ce matin. Au Proche-Orient, alors qu'Israël persiste à planifier son offensive sur la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza, quitte à se passer du soutien des États-Unis, a averti hier Benjamin Netanyahou. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu cet après-midi à la frontière égyptienne avec l'enclave palestinienne. Il doit notamment y rencontrer des travailleurs humanitaires. La 30e édition du SIDAction a débuté hier en France. Mobilisation qui doit s'étaler tout le week-end, collecte de dons, sensibilisation. Les objectifs sont toujours les mêmes alors que 200 000 personnes vivent avec le VIH actuellement en France. La méconnaissance de la maladie est l'un des principaux obstacles au contrôle de l'épidémie, alerte aujourd'hui le SIDAction, mais c'est loin d'être le seul obstacle. Nous vivons un moment de forte tension internationale. Dans quelle mesure affecte-t-elle la lutte contre le SIDA dans le monde? Pour en parler, notre invité ce midi est Marion Abaléa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg. Alors parlons d'abord de la pérennité des programmes internationaux de lutte contre le sida et en particulier de leur financement qui dépendent en grande partie des États-Unis. Quel est notre niveau de dépendance envers les États-Unis en matière de financement de l'aide contre le VIH et est-ce un problème?
Alors effectivement, il est énorme hein, puisqu'on estime qu'aujourd'hui l'aide mondiale consacrée à la lutte contre le sida est financée à près de 60% par les États-Unis. Et si on prend juste l'aide accordée par les États du Nord aux États les plus en difficulté, cette aide américaine représente près des 3/4 de cette aide. Donc effectivement, la dépendance est énorme et elle est potentiellement en danger. Elle pose une menace puisque ce financement à long terme n'est pas nécessairement assuré. Aujourd'hui, aux États-Unis, on débat beaucoup du prolongement ou pas des programmes et du financement des programmes américains de lutte mondiale contre le sida. Et il n'est pas du tout certain que ce prolongement soit assuré pour les mois et les années qui viennent.
Tout cela est une question de politique interne. Le Congrès américain peut mettre un coup d'arrêt véritablement à ces programmes?
Oui, il le peut. Il vote un grand programme qui s'appelle le PEPFAR, un programme qui avait été initié en 2003 régulièrement pour définir le montant des financements accordés. Et effectivement, le Congrès américain est absolument maître d'accorder ou non. Alors, en ce moment, vous le savez peut-être, on est en pleine discussion justement sur ces budgets américains. Et on est très incertain sur le renouvellement du programme. En tout cas, il ne sera probablement pas renouvelé sur 5 ans comme il l'est d'habitude. Les dernières rumeurs extrêmement récentes mettent en avant l'idée qu'un accord aurait été trouvé pour un renouvellement pour un an, ce qui est une mesure à moindre mal, entre guillemets. Évidemment, l'élection présidentielle du mois de novembre changera peut-être la donne.
Au niveau mondial, y a-t-il aussi un effet guerre en Ukraine sur le niveau des aides allouées à la lutte contre le sida ?
Guerre en Ukraine en tant que telle, peut-être pas exactement, mais disons que la montée des menaces sécuritaires globalement pèse sur les budgets globaux accordés à la lutte contre le sida comme à d'autres problèmes, puisque évidemment, c'est un jeu de vases communicants. Les budgets militaires, les budgets dédiés aux problèmes sécuritaires augmentent et en parallèle, évidemment, d'autres budgets peuvent en pâtir. C'est une des inquiétudes d'ONU-SIDA ou de l'Organisation mondiale de la santé, de voir que les budgets dont ils ont besoin, dont ont besoin ces organisations et d'autres dans la lutte contre le VIH et le SIDA, peuvent être impactés, évidemment, par une diminution des aides accordées du fait des priorités plutôt sécuritaires qui sont aujourd'hui celles des politiques internationales de beaucoup d'États.
De façon générale, nous assistons dans certaines régions du monde à une dégradation des droits humains. Est-ce un terreau propice à des rebonds de l'épidémie ?
Bien sûr, les droits humains ont toujours été une question centrale dans la lutte contre le VIH, puisque les personnes les plus vulnérables ont toujours été celles qui ont été les plus touchées par la maladie. Et toutes ces menaces que l'on voit aujourd'hui peut-être croître impactent cette lutte, que ce soit les crises armées. Il y a eu des rapports extrêmement inquiétants qui viennent de sortir, par exemple, sur la crise au Tigré en Éthiopie et sur l'impact qu'ont pu avoir des viols de guerre sur la diffusion du VIH dans cette région de l'Éthiopie. Dans une autre mesure, les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les adolescentes, sont particulièrement exposées au VIH et sont celles qui sont les moins bien protégées en termes de droits. Évidemment, la persécution ou les stigmatisations dont des minorités sexuelles peuvent être l'objet dans beaucoup d'États de la planète les privent souvent d'accès à l'information, à la prévention, voire au traitement de lutte contre le VIH.
En quelques mots, maintenant que ce constat est posé, selon vous, faut-il attendre que les crises passent ou faut-il repenser les programmes internationaux de lutte contre le sida ?
C'est une question difficile. La spécificité des programmes et du sida en tant que tel, c'est que il faut des programmes qui sont financés sur le long terme, puisque comme on n'a pas de traitement qui cure, qui guérit, il faut un engagement sur des dizaines d'années. Et peut-être effectivement, il est nécessaire de repenser certains des mécanismes de financement qui sont souvent de court terme, alors que quand on met quelqu'un sous traitement, on doit financer son traitement pour 10, 20, 40, 50 ans peut-être.
Merci beaucoup Marion Abaléa. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Strasbourg. Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. On referme cette édition avec la disparition d'un des auteurs et illustrateurs jeunesse français les plus importants du XXe siècle. Laurent de Brunhoff est décédé hier à l'âge de 98 ans, fils des créateurs de Babar, Jean et Cécile de Brunhoff. Il est celui qui a fait vivre la saga du Roi des éléphants après la mort prématuré de son père en 1937. Bonjour Fanny Humbert.
Bonjour Adrien.
Laurent de Brunhoff est celui qui a porté en quelque sorte le personnage pour construire un véritable empire.
C'est grâce à lui, Laurent de Brunhoff, que les aventures de Babar, Zéphyr et Céleste ont été traduites en une dizaine de langues et écoulées à des millions d'exemplaires, notamment aux États-Unis. C'est sa mère, Cécile, qui invente le personnage. Elle imaginait les aventures d'un petit éléphant pour endormir ses enfants. Puis c'est son père, Jean, qui signe seul le premier album en 1931. Ce sont les couleurs vives, la douceur des dessins qui plaisent, mais aussi le grand format des albums qu'il est l'un des premiers à utiliser. Laurent de Brunhoff a 12 ans quand son père décède de la tuberculose. Après des études de peinture, il dessinera une dizaine d'albums supplémentaires, mais c'est surtout son sens du marketing qui fait fructifier l'empire Babar. Il décline la saga à la télévision et en spectacle, pour lequel les plus grands noms prêtent leur voix. Ici, Jacques Brel, en 1945, sur une musique de Francis Poulenc.
Si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine céleste! Vive le roi Babar! Crient tous les éléphants sans hésiter. Et c'est ainsi que Babar devint roi.
Couronnement de Babar !
Babar, c'est aussi des chansons pour Chantal Goya, par exemple, des jouets et plus de 500 produits dérivés comme des peluches ou des mugs. Et la saga n'est pas prête de disparaître, puisqu'aujourd'hui on peut suivre les aventures de Badou, le petit-fils de Babar, sur les plateformes de streaming. Signe que l'univers du roi des éléphants au joli costume vert est loin d'être passé de mode.
Fanny Imbert, merci. Un mot du temps de cet après-midi, une France coupée en deux avec de la pluie sur la moitié nord, tout de même des éclaircies sur l'Indre et le Cher. Du soleil au sud, sauf sur la Corse, les températures comptaient 8 en Alsace, 10 à Paris et Lille, 11 en Bretagne. Tout le sud-ouest autour de 15 degrés, entre 18 et 20 en Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Prochaine édition à 18h.